We'll look first at Matthew 20.
On va regarder d'abord en Matthieu 20.
You're invited to turn there.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu 20.
If I gave that invitation in Ecuador, immediately
si je donne cette invitation en Équateur, les gens vont commencer immédiatement à parler les uns aux autres pour savoir où il faut regarder, où il faut trouver le passage. Spécialement les gens qui ne me connaissent pas très bien.
Then someone might yell out, "What verse?"
Ensuite, quelqu'un va probablement crier, « Quel verset ?»
Again, the ones that don't know me very well.
Encore une fois, c'est des gens qui ne me connaissent pas très bien.
You who've been to Latin America know what I'm talking about.
Et vous qui êtes allé en Amérique du Sud, vous savez de quoi je parle.
And on a day when I'm able to exercise self-control,
et les jours où je suis capable d'exercer le contrôle de moi-même,
or shake my head, or
je vais arriver à pas parler sarcastiquement ou à secouer la tête, mais à dire en souriant, le verset que je voudrais que vous cherchiez, c'est celui-là. L'histoire qu'on trouve en Matthieu 20 parle du royaume des cieux. Quand je pense à un royaume, je pense à quelqu'un qui dirige et comment son caractère et sa nature sont exprimés dans la manière dont il gouverne. Et vous connaissez l'histoire. Il y a des ouvriers qui ont été engagés tôt le matin. Et ils se sont mis d'accord sur le prix. Et ensuite, plus tard dans la journée, à différentes heures, d'autres ouvriers ont été engagés. Et c'est intéressant, parce qu'avec cela, le maître ne s'est pas mis d'accord pour un prix. Ceux qui sont arrivés dans le cours de la journée, on leur a dit simplement qu'ils seraient payés ce qui était juste, mais ils ne savaient pas combien ils allaient recevoir comme salaire. Ils savaient qu'ils allaient recevoir ce qui est juste. Et ensuite, à la fin de la journée, bien sûr, tous les ouvriers reçoivent le même salaire. Ceux qui ont travaillé toute la journée et ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Et ceux qui ont travaillé le plus longtemps étaient mécontents. Ils ont trouvé que ce n'était pas juste. Et au verset 15, voilà ce que nous lisons. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et la vraie question ici, c'est qui est souverain, Dieu ou l'homme? Est-ce que Dieu a le droit de payer comme il le choisit? Est-ce que Dieu est méchant et que l'homme est bon? Ou est-ce que Dieu est bon et l'homme mauvais? Et quand je considère ceci, je pense à la question que le serpent a posée dans le jardin quand il a dit, Dieu a-t-il dit? Et il y a beaucoup de questions à l'intérieur de cette seule question, dont Dieu est-il bon? Dieu est-il juste? Dieu est-il sensible? Dieu est-il compréhensif? Dieu est-il juste? Et il y a quelque chose dans la disposition naturelle des hommes qui met en question Dieu et sa bonté. Par exemple, parfois quand on évangélise, on peut recevoir des commentaires qui nous dérangent. Quand les gens expriment l'idée qu'ils doivent atteindre un certain niveau de sainteté avant de pouvoir recevoir le don du salut. Ou alors ceux qui disent qu'après le salut, ils ne seront pas capables de maintenir un certain degré de justice. Et j'utilise cela et ils utilisent ça comme une excuse pour refuser un cadeau gratuit. Et c'est intéressant. Je ne suis pas sûre comment ça marche dans cette culture, mais parfois, on voit ces façons de penser et ces philosophies qui sont plus courantes dans certaines régions que dans d'autres. On évangélise toutes les deux semaines dans une ville qui s'appelle Banyuls. Et je crois que c'est l'endroit préféré de Pasteur Stan, si je ne me trompe, en Amérique du Sud. Un joli petit village. Il y a beaucoup de cicatrices. Et quand Pasteur Ray vient pour une conférence en Équateur, on fait un circuit entre Guayaquil, Banyuls et Quito. Et certains d'entre vous qui parlent espagnol, vous savez que Rey, ça veut dire roi. Donc, on fait la promotion de la conférence en disant « le roi vient ». On imaginait même peut-être faire une affiche avec la photo de Pasteur Ray en disant « Le roi vient ». J'imagine deux Équatoriens en train de regarder cette affiche en voyant la photo de Pasteur Ray. Et là, en train de dire, je ne l'ai jamais imaginé comme ça. Et peut-être l'autre qui lui dit, mais il est exactement comme je le pensais. Donc, on est allé à Banyuls comme un groupe du Pérou et de Caroline. On s'est rencontrés là-bas. Et on y retourne toutes les deux semaines pour évangéliser, pour faire une étude biblique. Mais quand on compare nos notes après avoir évangélisé, ce genre d'argument est très courant dans cette région, pour une raison ou pour une autre. Cette façon de penser qu'il faut atteindre un niveau pour être sauvé ou maintenir un niveau une fois qu'on est sauvé. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que Dieu est mauvais, Dieu est méchant. Il n'est pas assez bon pour me donner un don gratuit que je ne mérite pas. Et ce qu'ils disent en réalité, c'est que l'homme est bon. Je peux atteindre un niveau qui me rend acceptable pour Dieu. Et c'est vraiment, ça nous dérange vraiment. Mais parfois, les croyants sont comme ces ouvriers de la parabole. Et ils remettent en question la justice et la bonté de Dieu. Parfois, les croyants remettent en question le fait que Dieu les traite avec justice. Dieu est-il saint et juste pour sauver un homme qui est un homme bon moralement? Pour sauver un homme immoral et ne pas sauver un homme moral, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal que des gens bien, des gens de bonnes gens aillent en enfer? Et que d'autres qui ont fait des péchés ouverts se retrouvent au ciel. Parfois, dans les épreuves, c'est facile pour nous de remettre en question la bonté et la justice de Dieu. J'ai parlé à des gens cette semaine qui ont perdu leur maman, leur fille, un mari, une sœur. Et un ami que j'ai rencontré cette semaine m'a parlé de sa famille. Il m'a dit comment sa maman, qui est croyante, mais depuis que sa sœur est morte, donc la fille de cette dame, sa maman n'est plus du tout près de Dieu comme elle l'était avant. Et je me demande si elle n'est pas en train de remettre en question la bonté et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Vous qui êtes parents, vous avez l'expérience de vos enfants qui vous disent « c'est pas juste ». Et certainement, il y a quelque chose d'admirable dans le fait de vouloir la justice. Mais j'avais l'habitude de dire à mes enfants deux choses. Premièrement, la vie n'est pas juste et le plus tôt tu apprendras ça, mieux ce sera. Et deuxièmement, tu ne veux pas vraiment la justice. Ce que tu veux, c'est la grâce et la miséricorde. Crois-moi, tu ne voudrais pas recevoir ce que tu mérites. Et nous avons entendu les termes qui ont été utilisés cette semaine, ce que Pasteur Love a utilisé. Nous avons une résistance intérieure à la grâce. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui croit que nous pouvons faire quelque chose de méritoire. Proverbe 24, verset 16, vous n'avez pas besoin de regarder là, mais il est dit, « Le juste tombe sept fois et il se relève. » Dieu donne la justice à des gens qui ne la méritent pas, et personne ne la mérite plus qu'un autre. Nous ne méritons pas, comme Pasteur Mati l'a expliqué hier soir, la grâce de Dieu plus que quelqu'un d'autre. Parfois, nous pensons de cette manière, mais quand nous faisons ça, nous pouvons accuser Dieu d'être injuste. Mais cet homme juste qui a reçu sa justice sans avoir fait de bonnes œuvres, il se relève parce qu'il comprend que c'est un cadeau, qu'il ne mérite pas, que c'est donné gratuitement. Et il se relève sans culpabilité, sans condamnation, sans avoir le sentiment qu'il devrait faire pénitence, sans penser qu'il est disqualifié pour le service. Et c'est parce qu'il reçoit. Il reçoit la grâce. Il est sauvé par la grâce. Il est sous la grâce. Il est établi dans la grâce. Il sert dans la grâce. Et il se tient dans la grâce. Merci pour votre attention. Pasteur Risto qui vient de jouer du piano de Finlande. Pasteur Mihail de Roumanie, c'était ton introduction. Bienvenue.
Hello, good morning.
Bonjour.
A verse from Proverbs.
Un verset dans les Proverbes, Proverbe 15.
And then 1 John chapter 1.
Et ensuite en 1 Jean chapitre 1.
Proverbs 15,
Proverbe
15,
17, verset 17. Je vais traduire depuis ma Bible roumaine. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Qu'est-ce que vous choisissez? On pense à ce qu'on choisit quand on lit ce verset. Il y a une autre question ici, c'est qu'est-ce que Dieu choisit pour nous? Parfois, il va choisir que nous ayons moins pour que nous soyons plus prêts à aimer, pour que nous devenions des véhicules de son amour. Et peut-être pour certains d'entre nous, c'est à travers des difficultés qu'on est venu ici à la conférence. Mais c'est super parce qu'on est tellement rempli d'amour. La façon dont Dieu m'a parlé, viens ici. C'était en 1 Jean chapitre 1, en commençant au verset 3.
And with his son, Jesus Christ.
Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous sommes en communion. Quand j'ai lu ceci, Dieu m'a dit, vas-y, parce que leur communion est avec moi. Va là-bas pour être en communion avec eux. C'est beau. C'est extraordinaire. Dieu remplit nos cœurs. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La nouvelle que nous vous apportons, c'est qu'il y a de la lumière en Dieu. Nous avons trouvé de la lumière en Dieu. Il y a de la lumière. Mais ce n'est pas la nouvelle, en fait. C'est que Dieu est seulement lumière. Dieu vraiment est lumière. Il est vraiment lumière. Dieu est seulement la grâce. Il est vraiment grâce. Et le message qu'on a entendu de Pasteur Mark avant, Pasteur Mike, il veut vraiment nous donner toutes choses par grâce, gratuitement. Si ce n'est pas entièrement par grâce, alors ça voudrait dire qu'il n'est pas seulement lumière, mais qu'il y a un petit peu de ténèbres aussi. Nous comprenons pourquoi, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, il parle au temps passé. Dieu nous a tellement aimés. Parce que c'est à la croix, quand on regarde son corps posé sur la croix, il est lumière, il est amour, il est seulement amour, il est complètement là pour nous. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Il est vraiment pour nous. C'est mieux d'être dans le besoin, mais de vivre par cet amour, de dépendre de Dieu, que de tomber dans la folie de mes pensées, de penser j'ai besoin de devenir meilleur pour pouvoir mériter quelque chose de la part de Dieu. C'est ce que je veux dans ma vie. Et pour terminer, deux choses à propos de l'amour. Deux choses qu'on appelle l'amour. Nous pensons à l'action d'aimer. Nous pensons au verbe aimer. Et ça s'appelle l'amour, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est l'état d'aimer ou d'amour. Être amoureux. Comme on est ici cette semaine, nous tenir dans l'amour. Ce n'est pas l'action, c'est être amoureux. Et Dieu est amour. Il est amour. Et parce qu'il est amour, alors l'action vient. Le verbe d'action arrive. Il a aimé. Et nous nous tenons dans l'amour. Quand nous pensons à l'amour, on pense à l'action. Il faut qu'on aime, il faut qu'on fasse cela. Mais Dieu nous dit, attends un instant. D'abord, sois dans cet état d'être amoureux. Et si nous ne sommes pas aimés, comment ne pouvons-nous aimer ? C'est en recevant d'abord, en étant aimé, en recevant le fait que Dieu nous aime. Il nous aime, il est amour, le résultat c'est qu'il nous aime, et la conséquence c'est que nous sommes aimés, nous nous tenons dans l'amour. Et finalement ça produit de notre part aussi l'action d'aimer. Juste un exemple, quand la Bible dit que dans l'amour il n'y a pas de crainte, ça ne parle pas du fait que quand j'aime quelqu'un, la crainte disparaît. Mais ça signifie que quand je suis dans l'amour, quand je suis aimé, quand j'ai reçu l'amour de Dieu, alors il n'y a que de la lumière. Il n'y a que de la lumière. Il n'y a rien d'autre en lui. Aucune ténèbre en lui. C'est juste de l'amour, juste de la lumière. Il est entièrement pour moi. Il est vraiment bon à ce point. Et alors il n'y a pas de crainte. C'est meilleur que n'importe quoi d'autre. Merci beaucoup.
song.
Quel chant.
That's all we want.
C'est tout ce que nous voulons.
Hey, I need 4 volunteers.
J'ai besoin de 4 volontaires ce matin.
Pastor John Boyce.
Pastor John Boyce.
And come on up.
Venez, viens.
Daniel and Julian, Pastor Julian Timofte.
Daniel et Pasteur Julian Timofte.
And I need Joe Roach.
Et j'ai besoin aussi de Joe Roach.
Okay. This is my kind of volunteering.
C'est ma façon de choisir des volontaires.
Hey,
c'est ce que Dieu a fait avec moi.
I want you to stand right here.
Je veux que vous vous teniez là,
here at the bottom, right
juste en bas.
Let's see. And I want you to stand right up here at the top.
Je veux que tu tiennes là tout en haut.
I want you to stand at the top over.
Je veux que
here.
Tu tiennes en haut, là-haut.
I want you to stand right here.
Et toi, juste là.
Okay. Right. Okay. Hey, I checked this morning. By the way, regarding Pastor Chiavelli's,
j'ai vérifié ce matin
first visit ever to South America,
quand c'était la première visite
September,
de Pasteur Chiavelli en Amérique du Sud. C'était le 10 décembre, 10 septembre, pardon, jusqu'au 17.
Pastor Mark Benoit and Stephanie, it's great to see you guys. And I checked this morning, and
j'ai vérifié ce matin.
Delta, $415 from here, from Washington to Lima, Peru.
Et j'ai vérifié ce matin, ça coûte encore $415 pour aller de Washington à Lima, au Pérou. Je veux juste mentionner ça. Donc la conférence de septembre avec Pasteur Chiavelli, ça va être le leadership. On va rendre ça vraiment abordable au Pérou. Et en plus, les prix des vols sont vraiment faciles en ce moment. Donc je veux juste faire la pub. Vous vous demandez probablement, et eux aussi d'ailleurs, ce qu'ils font là. Mais n'ayez pas peur du verset, parce que je vais lire un verset maintenant. En Proverbe 6, chapitre 6 et verset 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, paresseux, et considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et comme je n'ai pas le petit ordinateur de Pasteur Chaleur sur lequel je peux écrire pour que ça aille sur l'écran, je me suis dit que j'allais utiliser ces hommes. Donc c'est mon écran en fait. On va imaginer un petit graphique que je suis en train de dessiner là sur ce mur. Et la ligne du bas du graphique, la ligne horizontale, c'est une orientation de grâce. Une orientation de grâce. Ça, c'est zéro. Désolé. Vous êtes probablement demandé pourquoi j'ai choisi ces hommes-là. Parce que Juliana Timofte et certains Péruviens regardent ça. Donc il y a les deux frères de Juliana. Il y a l'ancien pasteur de Juliana. Et il y a Joe Roche parce que c'est un fan des Redskins de Washington. En plus, il est exactement où il doit être. Parce qu'il est venu au Pérou au départ et ensuite il nous a quittés pour aller en Afrique. Donc c'est pour ça que je l'utilise ici. Et en plus, c'est un fan des Redskins de Washington. Donc voilà, la ligne horizontale, c'est quoi ? L'orientation de grâce, d'accord. Ensuite, la ligne verticale, c'est la diligence. C'est ce qui se passe David, parfois dans le monde de nos jours. Dans les églises chrétiennes, les gens ont l'air de penser que la diligence et l'orientation de la grâce sont deux choses qui s'excluent mutuellement. Vous ne pouvez pas être diligent et avoir une orientation de grâce. Et si vous êtes diligent, alors automatiquement, ils pensent que vous n'êtes pas orienté vers la grâce. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, nous avons zéro d'orientation de la grâce et zéro diligence. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un paresseux légaliste. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Un paresseux légaliste. J'aime ça. Et ensuite, bien sûr, tout là-haut, vous avez quelqu'un qui est 100% diligent. Et en ce moment, d'ailleurs, Pasteur Boyce est en train de se glorifier lui-même. Mais ici, nous avons un homme très diligent. Très diligent. 100% diligent. Mais où est-il sur la ligne de la grâce? Donc c'est un légaliste diligent. Un légaliste paresseux. Un légaliste diligent. Et ensuite ici, nous avons quelqu'un qui est très orienté vers la grâce. 100% orienté vers la grâce. Mais il est paresseux. Est-ce que c'est possible d'être orienté vers la grâce et d'être aussi paresseux? Absolument. Paresseux. Un homme de grâce, mais il est paresseux. Et là, bien sûr, là-haut, je suis sûr que je vais gagner de l'argent avec ça. Ici, là-haut, vous avez un homme de grâce, complètement plein de grâce, mais il est aussi très diligent. Vous restez où vous êtes, je ne veux pas que vous bougiez. Et je veux juste lire quelques versets, ensuite j'ai fini. 2 Corinthiens 5, 17 dit: si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. C'est super, tout le monde aime ça. Et vous savez ce qu'il est dit ensuite dans le verset suivant, verset 18? Nous avons reçu un ministère. Nous sommes en Christ, une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Les toutes choses sont nouvelles. Même les vieilles choses qui peuvent se manifester dans ma vie demain à cause de ma vieille nature ne sont pas vieilles chronologiquement, mais elles sont vieilles par nature. Même si ces vieilles choses se manifestent en moi demain, elles sont déjà passées. Parce que c'est une œuvre accomplie. Mais ensuite, il est dit, vous avez reçu un ministère. Le verset 19 dit, il nous a confié le ministère de la réconciliation, une parole de réconciliation. Il nous a confié la parole de la réconciliation. Comment ça, il me l'a confié? On dirait que tu veux que je fasse quelque chose. Et ensuite, au verset 20, il est dit, nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire que nous sommes censés être des ambassadeurs. C'est une occupation, c'est un travail. Et ensuite, au chapitre 6, verset 1, il est dit, nous sommes des ouvriers, des collaborateurs. Et ensuite, 1 Corinthiens 15, verset 10. Tout le monde aime ce verset quand Paul dit « Je suis qui je suis par la grâce de Dieu », n'est-ce pas? Et il pourrait dire ça, lui, parce que c'est un homme de grâce. « Je suis qui je suis par la grâce de Dieu ». Mais Pasteur John dit « Oui ». Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé. Et je finis juste avec ce dernier verset. En 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et le verset 9. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Paul parle à cette église Et il leur demande de se rappeler quand il était là avec eux, quand il était au milieu d'eux avec eux. Et il dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Je regardais ces paroles-là, parce qu'il y en a trois ici. Le travail, la peine, et être à l'œuvre. Le premier, c'est skopos, et ça veut dire travailler jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Le deuxième, moktos, ça veut dire travailler encore plus à partir du moment où je suis déjà fatigué. Donc le premier, c'est travailler jusqu'à ce que je sois fatigué, et ensuite, une fois que je suis fatigué, je continue quand même à travailler. Et quand je lis ça, il y a certaines personnes qui me viennent à l'esprit. Je pense à Pasteur Stevens qui est décédé il y a un an et qui a travaillé jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Et une fois qu'il a commencé à être fatigué, il a encore continué à travailler. Et je sais plusieurs fois où j'ai visité ici. Les dernières voitures qui étaient sur le parking, c'est la voiture de Pasteur Schaller. C'est travailler jusqu'à ce qu'on soit fatigué, et une fois qu'on est fatigué, continuer encore à travailler. Et le dernier mot, c'est l'épuisement. C'est quelque chose de continuel que nous faisons. Comme c'est écrit là, le thème de notre conférence, nous nous tenons ici. Et je pense au message de Pasteur Schibelli hier soir. Nous nous tenons ici, n'est-ce pas? Parce que n'importe lequel d'entre nous, nous pourrions être n'importe où dans ce graphique, n'importe où dans ce carré. À n'importe quel moment, on peut être en train de pencher plutôt de ce côté, ou de ce côté, ou de celui-là. Mais là où nous voulons aller, c'est là. C'est là que nous voulons aller. Mais nous sommes littéralement, à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, nous sommes comme plantés dans la grâce, mais nous ne sommes pas toujours orientés de la bonne façon vers la grâce, mais nous grandissons là-dedans. Et nous venons ensemble et nous entendons ces messages et nous lisons la parole et nous prions sur nos genoux. Et Dieu fait des choses dans notre vie. Et il nous oriente vers la grâce. Encore et encore, nous sommes dans la grâce. Nous nous tenons là. Et je pense comme Pasteur Schibelli a dit hier soir, et maintenant de là nous allons. De là nous allons, et nous sommes diligents. Il y a des opportunités partout où nous sommes. Comment pourrions-nous ne pas être diligents en ayant reçu ce que nous avons reçu? Amen.
Boy, that was so diagrammatic.
C'était tellement diagrammatique. Il vient d'inventer le mot.
That was very good.
C'était très bon. Est-ce que c'était pas bon? C'était très bon. Toutes ces portions. C'était excellent. Je pense que nous devrions les répéter, les revoir. Revoir ce que Pasteur Stan vient de dire. En utilisant nos propres mots. Pensez à ça. Faisons-le ensemble. On va essayer de le faire. Je vais probablement me perdre au milieu, mais je vais essayer. Donc cet homme-là, il n'a pas de grâce. Et l'homme qui est derrière lui n'a pas de grâce, mais il est diligent. Donc il est légaliste.
What's that?
He's a Jehovah's Witness.
C'est un témoin de Jéhovah.
Now it comes out. He didn't say that.
Ça y est, maintenant il le dit. Il n'a pas osé le dire dans son message.
What? Okay. So this man has no grace.
Donc cet homme-là n'a pas de grâce.
Grace is increasing.
Et ensuite, là, quand on va par là, la grâce augmente.
So
mais il n'y a pas de diligence.
Lazy grace.
Donc c'est un homme de grâce, mais qui est paresseux. Mais s'il a de la grâce et qu'il est aussi diligent, alors il est comme l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15. Et c'est ce qu'on veut être. Nous sommes tous en train de grandir. Nous sommes à différents endroits sur le graphique. On a différentes inclinations. Des fois, on se réveille le matin et on n'est pas tellement orienté vers la grâce. On est vraiment très condamné. On est par là, sur le graphique. Et ensuite, on est édifié, comme dans cette conférence. On est édifié, on est rafraîchi dans la grâce.
Et
à quelle fréquence doit-on être rafraîchi dans la grâce? Tout le temps. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Tout le temps. Le Saint-Esprit doit illuminer notre cœur et nous révéler la grâce. Les messages d'hier soir étaient tellement extraordinaires, n'est-ce pas? Les histoires que Pasteur Mati a racontées, en particulier celle qui concernait sa tante, qui d'ailleurs était en train de le regarder prêcher hier soir en Finlande. Et rappelez-vous, il a mentionné
le mot encouragement. Vous avez dit that you grew up and you just didn't even know that that word existed.
Que quand tu as grandi, tu ne savais même pas que le mot encouragement existait.
But if you get a group of Finns together in the sauna.
Mais si vous prenez un groupe de Finlandais que vous les mettez ensemble dans un sauna, alors ils commencent à parler. Et là, il y a de l'encouragement.
How would that be? How is that expressed, Pastor Mati?
Comment ils exprimeraient leur encouragement, Pasteur Mati? On en parlera plus tard. Je crois qu'il dirait quelque chose du genre « Oh, il fait chaud là-dedans ». Donc la tante de Pasteur Mati et aussi toute la façon dont tu as exprimé la grâce. C'est moi. Mais la grâce m'a trouvé et il parle à mon cœur. Et la grâce me permet maintenant d'être diligent pour aimer les gens et pour les servir. Et quand on est actif de cette manière, il y a quelque chose qui manque en nous et c'est l'orgueil. C'est extraordinaire de voir comment on peut devenir actif, diligent, et tout en réalisant que c'est la grâce de Dieu qui me permet de travailler. Il y a un super passage là-dessus, c'est en Matthieu 20. Vous vous rappelez ce que Pasteur David Moore a partagé ce matin? Les ouvriers ont été payés pendant la journée. Le maître a engagé des ouvriers et à la fin de la journée, les dernières personnes ont été payées le même salaire que tout le monde. Et qu'est-ce que cette personne en pense de ça? Il se dit, bon, j'ai reçu mon salaire. Et ensuite, il y a quelqu'un là qui n'a travaillé qu'une heure. Moi, j'ai transpiré, j'ai travaillé toute l'année, 8 heures ou 10 heures, et j'ai reçu un denier. Et ensuite, quelqu'un qui a travaillé 15 minutes, il est arrivé à dernier moment, et il reçoit le même salaire que moi. Et sa réaction, c'est « Waouh ». Il a été très bien payé. Mon maître est un très bon maître. Il a été payé autant que moi. Et ça me montre à quel point mon maître est grand. Et ça me permet aussi de me réjouir. Parce que mon bénéfice, c'est que j'ai pu travailler 8 heures par la grâce, par grâce dans cette vigne. J'ai pu voir des âmes sauvées, j'ai pu aller à des réunions de prière, j'ai pu expérimenter la grâce. J'ai eu la chance de travailler pendant 40 ans. Et le brigand sur la croix, il est entré dans le royaume à la dernière minute par la même grâce. Mais il n'a jamais eu les bénéfices que moi j'ai eus de travailler pendant toute la journée dans la vigne. Parce que mon travail dans la vigne, ce n'était pas lié à la loi et à la diligence. Mon travail était motivé par la grâce. C'était la motivation dans mon cœur. C'était la grâce de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc nous sommes reconnaissants pour ça. Merci, pasteur. Très belle semaine, n'est-ce pas? Un temps extraordinaire. Dernier point qu'on va mentionner, c'est Proverbe 17:4. Il est dit, il est question de l'oreille. Je change un peu de sujet, mais je voudrais juste le mentionner. Proverbe 17, verset 4, est-ce que quelqu'un l'a? À propos, mon fils Justin a dit que Pasteur Stan est vraiment compétitif sur le terrain de basket. Pasteur Stan, il veut gagner. Il est capable de te casser la jambe, mais il veut gagner. Chapitre 17, verset 4. Le méchant est attentif à la lèvre inique. La lèvre inique. Le méchant, ils vont ensemble. Je
ne
crois pas qu'on va parler de ça, mais je voulais juste vous le lire. Et juste semer une semence dans votre cœur. Le méchant est attentif à la lèvre unique. Le méchant est attentif à quel genre de lèvre? La lèvre inique, c'est-à-dire au menteur. Le méchant aime être dans la compagnie des menteurs. Et vous, peut-être que vous dites, je ne veux pas être dans la compagnie de gens qui mentent. Et c'est vrai en ce qui nous concerne, on n'aime pas être avec des menteurs. Mais il y a tout un groupe de gens qui veulent être dans la compagnie des menteurs. Est-ce que vous saviez ça? Combien d'entre vous le savez? Je crois qu'on le voit dans le monde politique aussi. Le monde politique, c'est s'il y a quelqu'un de malhonnête qui ment, il y a tout un groupe de gens qui veulent qu'il soit leur dirigeant. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que s'il ment, alors j'ai le droit de mentir aussi. C'est pour ça. C'est un principe extraordinaire. Il y a des gens qui préfèrent avoir de mauvais leaders, de mauvaises communications, des gens qui mentent. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Le méchant est attentif à la lèvre inique. Quel est le rapport avec le ministère? Je crois que ça a un rapport. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui prêtent l'oreille à des calomnies, des accusations, des médisances. Et ça, c'est une indication de ce qu'il y a du fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans leur cœur. Parce que quand vous êtes droit dans votre cœur, vous êtes très sensible à la communication. Et c'est vrai aussi dans notre monde politique. Si vous avez un homme juste, un homme droit, Matthieu 10, verset 40, je crois. Si vous recevez un homme juste, vous recevez la récompense d'un homme juste. Et si vous recevez un prophète, vous recevez la récompense d'un prophète. Et vous devez faire vraiment attention à ce qui occupe votre cœur et qu'est-ce que vous écoutez et de quoi vous faites partie. Et quand nous sommes dans le monde, nous sommes au milieu de gens, des adultères, des fornicateurs, des menteurs, des gens malhonnêtes, des calomniateurs, des manipulateurs. Et nous sommes là, mais nous sommes séparés d'eux parce que nous avons un esprit différent, une pensée différente. Et ensuite, quand nous venons dans l'Église, l'Église est ainsi. Nous avons l'esprit de justice, la pensée de Christ, la communion dans l'amour. Et l'amour couvre, l'amour discerne, l'amour est sage. L'amour est prudent, l'amour est patient, l'amour est gentil. L'amour est incroyable. Et ensuite, vous avez la vie du corps. La vie du corps, ce n'est pas un méchant qui essaye d'écouter des ordures. C'est quelqu'un qui est droit de cœur et de pensée et qui écoute la vérité. Vous écoutez déjà des ordures toute la journée, il y en a tout autour de vous, mais pas dans la communion de Jésus-Christ au milieu de vous. Là, vous avez une pensée et un cœur et une onction qui brise le joug et qui libère les gens. Et on est comme ça. Je ne peux pas croire que je fais partie de ça. C'est tellement bon. C'est la grâce. C'est la vérité. C'est la justice. Et ça me rend très diligent. Vous avez de l'énergie et vous avez de la motivation. Le pouvoir du Saint-Esprit. Regardez. Si vous n'avez pas la grâce, que vous êtes légaliste, alors vous êtes sévère à propos du bien et du mal. Vous ne faites pas preuve de grâce. Vous êtes sévère et vous jugez et vous pénalisez. Vous n'avez pas de grâce. Vous pouvez être motivé dans quelque chose de mal comme les pharisiens. Les pharisiens seraient là-haut. Ils étaient très diligents, mais ils n'étaient pas pleins de grâce. Mais leur énergie, en fait, les faisait partir. Leur énergie, en fait, les épuisait. Et après 30, 40 ans, vous ne voyez pas quelqu'un qui est plein de grâce, mais vous voyez juste quelqu'un qui est en train d'empoisonner les gens dans sa communauté et dans ses relations. C'est extraordinaire. Et le méchant prête l'oreille à la lèvre inique. Et ensuite, vous allez par là et vous trouvez une autre sorte de phénomène. Et c'est la grâce. Et vous êtes diligent. Et vous retrouvez du rafraîchissement dans votre mission. Comment pouvons-nous gagner des âmes? Où pouvons-nous aller? Quelle est la prochaine porte par laquelle nous allons passer? Qu'est-ce qui se passe dans le plan de Dieu? Nous écoutons. Et Dieu donne sa faveur aux gens qui sont orientés vers la grâce. Donc gardez-vous de la pollution de ce monde. Et même au milieu des frères, ça devrait être corrigé. Vous devriez dire chut. Pourquoi juges-tu? Tu fais la même chose, Matthieu 7, verset 1. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement dans ta vie spirituelle? Tu as été baptisé dans le vinaigre. Tu es tout recroquevillé. Tu as un cœur comme un pruneau tout sec. Est-ce que tu as une vision personnelle dans ta vie? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu pardonnes 70 fois 7 fois par jour? Ou est-ce que tu es juste englué là? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen.